En tout cas, je suis très heureux qu'on puisse travailler ensemble cet évangile selon Matthieu. Donc vous voyez, d'après le programme que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cours sur Matthieu. Donc 5 fois 1h30, ça fait 7 heures, ça fait 1h15. Oh là là, oui. Ça fait vraiment très très peu pour faire tout ce que j'aimerais que nous fassions. C'est impossible, ce sera donc une petite introduction à l'étude de Matthieu. J'espère que ça vous donnera envie donc d'aller plus loin par la suite. Alors, j'aimerais vraiment souligner que ce sont des cours très libres. Vous intervenez, vous posez des questions, c'est vraiment pas... faites des remarques. Il faut vraiment que ce soit un cours très 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 libre. Et que les questions qui se posent soient posées plutôt que de partir avec vos questions et que ça ne, qu'on ne les règle pas. Alors, tout d'abord, donc je prends le plan du cours que vous avez dans page 38, dans votre manuel. Et donc, tout d'abord, quelques mots d'introduction pour introduire, donc pour lancer, oui, ça me semble, c'est normal que j'introduise, pour donner quelques idées bibliographiques qui vous permettraient d'aller plus loin. Puis après, quelques mots sur l'auteur et la date de rédaction de l'Évangile selon Matthieu. On ira assez vite sur ce point. Alors, en bibliographie, alors vous avez ça, page 39, je vous propose... dans cette sélection bibliographique, quelques livres qui me semblent intéressants. Ce sont les livres les plus importants, mais j'aurais pu vous donner 30 pages de bibliographie. 40 pages. Si vraiment vous voulez donner une bibliographie complète sur Matthieu, ce serait un bouquin même. Alors, tout d'abord, les introductions au Nouveau Testament. Alors là, j'en profite pour faire un petit peu de la pub pour les introductions. Il y a quelques livres très intéressants d'introduction au Nouveau Testament qui introduisent, entre autres, aussi l'Évangile selon Matthieu. Alors, je vous en propose trois. Tout d'abord, l'introduction au Nouveau Testament, Évangile et Actes, qui est un volume d'une introduction publiée par l'Institut biblique d'Emmaüs en plusieurs volumes. Vous avez un volume sur les évangiles, sur les actes, donc de François Bassin, Franck Horton et Alfred Kuhn. C'est François Bassin qui a écrit les chapitres sur les évangiles synoptiques. Donc, on appelle l'évangile synoptique Matthieu, Marc et Luc. C'est Franck Horton qui a écrit l'introduction à l'évangile de Jean et c'est Alfred Kuhn qui a écrit l'introduction au livre des actes. Et puis après, vous avez, par Alfred Kuhn, le reste du Nouveau Testament. Donc dans une introduction aux épîtres de Paul, une introduction aux épîtres générales, une introduction à l'Apocalypse, etc. etc. Alors, il a écrit encore d'autres choses sur l'Apocalypse. Il y a eu plusieurs petits livres dans cette introduction sur les questions eschatologiques. Alors c'est une introduction en français, écrite par des évangéliques. C'est très bien, c'est très fouillé, c'est solide. C'est parfois un peu trop touffu. C'est vraiment, c'est plusieurs volumes où Alfred Kuhn, entre autres, rentre dans beaucoup de détails, où il y a beaucoup de citations d'auteurs. Le danger, c'est peut-être un petit peu de se perdre dans cet amoncellement de données et de renseignements. Mais c'est très bien fait. C'est une introduction évangélique solide que je vous encourage à acquérir et à travailler. Deuxième introduction au Nouveau Testament, c'est celle que je trouve la meilleure, que j'utilise personnellement. J'utilise aussi l'introduction d'Emmaüs, qui est vraiment très bien faite. L'introduction évangélique aussi, introduction au Nouveau Testament évangélique, c'est fait par trois auteurs. Donc Carson Moo, je suppose que ça se prononce comme ça, et Morris, Leon Morris, trois auteurs évangélique. Léon Morris est australien, les deux autres sont américains. Remarquable parmi les autorités, ils ont des gens dont l'autorité est reconnue, pas seulement dans le monde évangélique, hein, mais en dehors du monde évangélique. C'est en un volume, tout y est résumé, condensé, c'est remarquable. C'est remarquable. Pour chaque livre, vous avez une bibliographie, très bien faite, à la fin. Hein, par exemple, toc, vous avez ça, c'est sur quoi ça? C'est sur Romain. Ça, 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 vous avez les ouvrages essentiels. Il y a parfois des titres en français, parce que Carson parle bien le français. Maurice, c'est possible aussi. Mou, je ne sais pas. C'est vraiment une très belle œuvre. Hein. C'est vraiment un bel ouvrage. Si vous savez l'anglais, procurez-vous cette introduction. Ça vous donne des bases de travail qui sont vraiment intéressantes. Et vous complétez par la lecture du livre d'Emmaüs. Troisième introduction, c'est l'introduction donc, qui a été publiée par Desclés, donc une maison d'édition catholique, par Georges, hein, Georges et Pierre Grelot. Professeur Georges, je pense aussi, en tout cas Grelot est professeur à l'Institut catholique de Paris. Alors, ça s'appelle Introduction à la Bible, le Nouveau Testament. Alors, il y a l'équivalent, l'introduction critique, à l'Ancien Testament. Donc, vous avez, dans cette, si vous voulez, dans cette, ce tome, plusieurs volumes. Vous avez un volume pour l'annonce, pour le contexte historique de l'annonce de l'Évangile. Vous avez un deuxième volume qui introduit les Évangiles. Vous avez un troisième volume qui parle des Épîtres. Vous avez un quatrième volume qui parle des épîtres joanniques, et vous avez un cinquième volume qui parle du canon du Nouveau Testament, et un sixième volume qui parle de la liturgie et des confessions de foi. Alors, c'est un très bel ouvrage aussi, c'est très bien fait. L'orientation est une orientation qu'on appelle la théologie critique, non évangélique. Par exemple, les auteurs ont tendance à dire que de Pierre n'a pas été écrit par Pierre, que l'évangile de Jean n'a pas été écrit par l'évangile par Jean, que Matthieu c'est plus l'expression d'une théologie mathéenne que l'œuvre d'un homme qui s'appelle Matthieu et ce genre de choses. Hein. Mais c'est très bien fait. Et donc si vous vous intéressez à une théologie qui n'est pas totalement évangélique, c'est ce genre d'introduction qu'il est intéressant de lire et après de comparer avec ce qu'on a dans les introductions évangéliques. Hein. Parce que nous discutons, nous dialoguons en faisant de la théologie avec un monde qui n'est pas évangélique en théologie. Alors c'est aussi une introduction catholique, mais les thèses catholiques ne se voient pas trop dans cette introduction. Voilà donc trois ouvrages qui sont intéressants. Les commentaires sur Matthieu. Alors là, nous revenons à Matthieu. Les commentaires en français, je vous en signale trois, qui me semblent être les plus importants. De Pierre Bonnard, l'Évangile selon saint Matthieu, c'est dans la série des commentaires protestants de la Chenisselet. De R.T., France, il s'appelle France, ce qui est un superbe nom, mais c'est un anglais. Donc un anglican, très impliqué dans les milieux du GBU, un théologien réputé, qui a écrit donc un petit commentaire, mais bien fait, dans la série InterVarsity Press, dans la série des IVP Commentaries. Donc c'est les commentaires du GBU. Et alors, le premier volume a été, donc la première partie de ce commentaire a été traduite il y a quelques années par Sator. La deuxième partie, et peut-être l'ensemble, va être repris par le commentaire évangélique de la Bible. Vous savez que c'est la série des commentaires de la faculté, ici, commentaire bleu, que vous connaissez. Donc, on va compléter ce commentaire pour avoir un beau commentaire en français de théologie évangélique sur Matthieu. M.J. Lagrange, catholique, Évangile selon saint Matthieu, ça date un peu, mais bon, c'est l'un des meilleurs commentaires catholiques sur Matthieu. En anglais, vous retrouvez Donald Carson, Matthew, excellent commentaire sur Matthieu. Si vous savez l'anglais, c'est certainement l'un des meilleurs commentaires. Je cite William Davis, Dale Allison et Willoughby Allen, The Gospel According to Saint Matthew. C'est un commentaire critique, théologie critique, mais qui fait autorité. Donc, ce n'est pas évangélique, ça vaut le coup. Robert Gundry. Alors ça, c'est intéressant. Matthew. A commentary. D'ailleurs, il y a un M qui manque là. Hein. Commentary, ça prend deux M. A commentary on his literary and theological arts. C'est un commentaire sur son art littéraire et théologique. Grand Rapids, Hermann 82. Gundry est un théologien d'obédience évangélique. Parce que c'est comme ça que lui-même se situerait. Mais le commentaire qu'il a écrit aborde Matthieu en appliquant ce qu'on appelle une exégèse midrashique. Midrash, ça veut dire interpréter. C'est une exégèse d'interprétation, si vous voulez. Et il pense que Matthieu, en fait, a construit des histoires qui n'ont pas réellement eu lieu à partir de prophéties de l'Ancien Testament. Donc on prend un texte de l'Ancien Testament, par exemple l'astre qui se lève sur... Je vois un astre, donc c'est la prophétie de Balaam, hein, l'astre qui se lève sur... Et que c'est à partir de là que qu'on crée un midrash sur l'astre de Bethléem. Donc c'est un théologien évangélique qui là prend des distances assez fortes par rapport à une théologie évangélique classique en tout cas. C'est un commentaire très intéressant, que je ne suivrai pas, mais qui est très intéressant. Leon Morris, vous retrouvez Leon Morris qui est aussi dans l'introduction, The Gospel According to Matthew, c'est donc un InterVarsity Press, c'est aussi dans, c'est un petit commentaire sur Matthieu qui est bien. Les études, je ne passerai pas tout ça en revue. Je citerai les ouvrages de... Ouf, il y en a plus, oui. De France, Jesus and the Old Testament, Jésus et l'Ancien Testament. Vous savez que c'est quelque chose qui est très présent dans Matthieu. Hein. Matthieu, c'est l'évangile de l'accomplissement. Et alors, vous avez aussi RT France, Matthieu, Evangelist and Teacher, une très bonne présentation de Matthieu, de l'évangile. Vous retrouvez Gundry aussi, qui écrit un bouquin intéressant. Voilà. Ça va pour la bibliographie ? Alors, vous avez bien sûr tous ces ouvrages, presque tous en tout cas à la bibliothèque. Vous pouvez les consulter. Je ne sais pas s'ils sont... Sinon, on ne les a pas sortis ici. Soit vous allez à la bibliothèque et ça vous permettrait de travailler. Voilà. Alors, deuxième point d'introduction, auteur et date de rédaction de l'Évangile selon Matthieu. Alors, est-ce que c'est ça ? Je ne vais pas faire ici ce que nous avons déjà fait en partie lors d'une université d'été il y a 2-3 ans sur la formation des synoptiques. Nous avons déjà travaillé là-dessus. Nous sommes lancés dans une petite enquête policière, je ne sais pas si ceux qui étaient là s'en souviennent, sur où nous avons relevé les indices qui nous permettaient de construire une théorie sur l'origine des synoptiques. C'est un travail tout à fait passionnant. Mais ce n'est pas le but de notre travail de cette année. Cette année, nous voulons un peu entrer dans l'évangile de Matthieu. Pas simplement voir d'où il provient. Alors, pour rappeler qui peut être l'auteur et la date de rédaction de l'évangile de Matthieu, je vous propose de lire les témoignages patristiques concernant Matthieu, page 45, donc dans votre dossier. Donc c'est mon document 4. Alors vous savez que les témoignages patristiques sont les témoignages des premiers théologiens de l'Église. Les premiers apparaissent à la fin du 1er siècle, aux alentours des années 90, Clément, peut-être Papias. La Didaquée apparaît au début du 2e siècle. Et puis après, vous avez Ignace d'Antioche, et Irénée, etc., qui apparaissent au cours du 2e siècle. Et puis il y en a au cours du 3e siècle, et puis etc. Et donc ces auteurs, ces théologiens, très tôt, rapporte des traditions concernant l'origine des évangiles, ainsi que l'origine d'ailleurs des autres écrits du Nouveau Testament. Et je vous ai relevé là les témoignages les plus importants. que nous avons. Alors là, l'habitude actuellement, enfin disons là, la tendance actuelle, c'est de traiter ces témoignages un peu à la légère. Rares sont les théologiens actuels qui donnent du poids à ces témoignages patristiques. Parce que ces témoignages patristiques contredisent les théories modernes sur l'origine des évangiles. J'aurais plutôt tendance à avoir l'attitude contraire. S'il y en a qui étaient tout près des événements et qui ont même connu des gens qui ont connu les apôtres, donc qui témoignent, disons, presque un témoignage de première main ou de premiers yeux ou de premières oreilles, je ne sais pas comment on peut dire, hein, mais un témoignage presque immédiat, ce sont bien les pères de l'Église. Papias, par exemple. Alors, que dit Papias ? Alors, on va simplement le lire. Je fais quelques remarques. Alors, Papias, selon certains, donc, aurait écrit, disons, ça date de 125-130, pour selon d'autres, de 90-110. On hésite. On peut discuter. Voilà ce qu'il écrit. Alors, ce qu'il écrit, nous n'avons pas l'ouvrage, les ouvrages même de Papias, nous avons des citations assez importantes, en taille, de Papias dans un ouvrage d'Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, date de plus tard, et dans cet ouvrage, donc, Eusèbe reprend les traditions concernant l'origine des différents livres du Nouveau Testament. Il nous dit, voilà ce que Papias, voilà ce qu'Irénée, etc., Clément d'Alexandrie, Origène, disent sur l'origine de ces écrits du Nouveau Testament. Alors donc, c'est tiré d'Eusèbe qui cite Papias. Alors voilà ce qu'écrit Papias. Si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des presbytres, je m'informais des paroles des presbytres, ce qu'ont dit André ou Pierre ou Philippe ou Thomas ou Jacques ou Jean ou Matthieu ou quelque autre des disciples du Seigneur. Bon. Alors, il y a des discussions sur le sens à donner à ce mot presbytre. Il me semble en tout cas ici que l'on doit lui donner le sens d'ancien, enfin, vous savez ce que veut dire le mot, mais d'ancien apôtre. Il s'agit là des apôtres. Dans un autre texte, on peut hésiter. Mais on ne rentre pas dans la discussion maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Donc, Papias dit qu'il nous rapporte des traditions, enfin des témoignages, de gens qui ont connu personnellement les apôtres. Et l'on pense que Papias a connu des gens qui connaissaient ou même qui avaient côtoyé l'apôtre Jean qui était encore vivant à son époque, selon un autre texte que je n'ai pas cité ici puisque nous étudions Matthieu, nous n'étudions pas Jean. Certains pensent même qu'il aurait lui-même connu Jean. Ce n'est pas du tout évident. Il aurait connu des gens qui ont connu Jean, Sérapion, etc. Bien. Alors que dit Papias de Matthieu ? Voilà ce qu'il dit. Matthieu réunit donc en langue hébraïque les dires, en grec c'est logia, de Jésus, hein. Tiens, je pense que j'ai oublié de Jésus. Et chacun les interpréta, alors c'est herméneo, c'est soit interpréter, soit traduire. On peut hésiter sur le sens du mot. C'est le même mot en grec, herméneo, traduire ou interpréter. Et chacun les interpréta comme il en était capable. Alors, le témoignage de Papias est important parce que c'est de là que découle la théorie, disons, que soutiennent certains, que Matthieu aurait été écrit en hébreu ou en araméen. Alors, on peut comprendre le mot hébreu comme hébraïque, là, en langue hébraïque, comme voulant dire en langue sémitique. Et c'est vrai que dans certains textes, on parle de langue hébraïque pour envoyer à l'araméen. C'est en tout cas une langue sémitique. Donc il y aurait un Matthieu originel en langue sémitique, hébreu ou araméen. Irénée, né vers 140, voilà ce qu'il rapporte. Matthieu produisait un évangile parmi les Hébreux, dans leur propre langue, à l'époque où Pierre et Paul prêchaient l'évangile et créaient l'église de Rome. Donc là, c'est situé dans le temps. On se trouve donc bien avant 70. Bien avant 70. Bien avant la destruction de Jérusalem. La théorie la plus courante actuelle, c'est que Matthieu daterait des années 80. L'évangile. Ça contredit en tout cas ce témoignage. Ça date d'avant 70. L'église de Rome est déjà créée aux alentours des années 50. Hein. Clément d'Alexandrie, né vers 150, les évangiles qui comprennent les généalogies ont été écrits d'abord. Donc les évangiles qui comprennent les généalogies, c'est Matthieu, où il y a une généalogie de Jésus, et c'est Luc, où il y a aussi une généalogie de Jésus. Dans Marc, il n'y a pas de généalogie, dans Jean, il n'y a pas de généalogie de Jésus. Donc selon Clément d'Alexandrie, Matthieu et Luc auraient été écrits avant Marc et Jean. Les théories les plus courantes actuelles disent que Marc a été écrit en premier et que Matthieu, l'évangile selon Matthieu, aurait été écrit après Marc. Et celui ou ceux qui ont écrit l'évangile selon Matthieu se seraient inspirés de Marc. Donc là, c'est un témoignage patristique qui contredit les tendances actuelles, les affirmations actuelles des théologies. Origène, né vers 185 à Alexandrie. Comme je l'ai appris dans la tradition au sujet des quatre évangiles, qui sont aussi seuls incontestés dans l'église de Dieu qui est sous le ciel, il y a des évangiles apocryphes. D'abord a été écrit celui qui est selon Matthieu, premièrement publicain, puis apôtre de Jésus-Christ. Il a édité pour les croyants venus du judaïsme et composé en langue hébraïque. Origène résume les données de la tradition. D'abord Matthieu, en langue grecque. Voilà. Alors, il est clair que si l'on maintient le témoignage patristique sur l'origine de Matthieu, on a affaire à un grand problème en ce qui concerne les théories actuelles de l'origine des évangiles. Concernant l'origine des évangiles. Alors, quelles sont ces théories? Les théories actuelles, rapidement. Ça va, vous suivez? On va au pas de charge, hein, ça c'est vraiment... On peut dire qu'aujourd'hui, il existe quatre théories. La quatrième étant minoritaire, mais... la première étant... battue en brèche. Alors, la première... Vous avez ça, page 47, hein, sur votre papier. Page 47. Donc, le document 6. Vous avez, premièrement, ce qu'on appelle la théorie de la dépendance mutuelle. Et on appelle cette théorie la théorie de Griesbach, parce qu'en 1789... Griesbach a proposé cette théorie qui n'est pas révolutionnaire, malgré la date. C'est une théorie qui fait dépendre Marc et Luc de Matthieu. C'est simplement une théorie qui reprend les données patristiques, qui dit que Matthieu a été écrit en premier, et que Luc a été écrit après, et Marc s'est inspiré de Matthieu et de Luc. Marc étant plutôt le dernier évangile. Puisqu'Origène dit... et puis Irénée, que les évangiles qui ont les généalogies ont été écrits en premier, Matthieu et Luc, et puis Marc après. Alors aujourd'hui, vous avez encore certains théologiens qui soutiennent ce point de vue. L'un des plus fervents défenseurs de cette thèse, un certain Farmer, théologien catholique américain, qui fait partie, disons, des milieux assez conservateurs de l'Église catholique. Je devais me rendre à un colloque qu'il organisait à New York, mais en fin de compte, je n'ai pas pu y aller pour remplacer Philippe Roland, dont nous allons parler, qui me disait que, bon, c'est l'aile très conservatrice, est assez militante de de l'Église catholique. Alors, vous vous rendez compte des problèmes que pose cette théorie. Comment peut-on penser, à la lumière des textes, que Marc avait sous les yeux Matthieu et Luc, et dépend de Matthieu et de Luc? Ça semble très difficile. Ça veut dire que Marc a coupé tout l'évangile de l'enfance, il a éliminé ça. Que Marc aurait supprimé des textes comme le sermon sur la montagne, aurait retartouillé, parce que c'est vraiment le cas, hein, aurait réorganisé tout Matthieu en dispersant des textes qui dans Matthieu sont rassemblés, dans Matthieu 10 par exemple, dans Matthieu 13, des paraboles, dans Matthieu 24. On croit que là c'est moins évident dans Matthieu 24. Aurait supprimé un grand nombre de textes. C'est assez étonnant. On voit difficilement comment Marc aurait fait ce travail. Mais bon, il semble plutôt que c'est Matthieu qui apparaît comme un évangile qui a travaillé à partir de données plus limitées, et que Luc aussi, en y ajoutant l'évangile de l'enfance. Mais Marc ne parle pas de l'évangile de l'enfance. Il n'y a pas le sermon sur la montagne dans Marc. La plupart des paraboles de Matthieu 13 ne sont pas dans Marc. Bon. Matthieu 25, ce n'est pas dans Marc. Etc, 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 etc. C'est assez étonnant. Mais bon, ça correspond à la tradition patristique. Oui.
Est-ce qu'on peut suggérer que la différence d'intention aurait pu justifier malgré tout une compilation très particulière de la part de Marc de ces données de Matthieu et de Luc?
Alors on peut.
Par exemple, se destinant aux païens, aux païens chrétiens, l'enjeu de l'enfance n'était pas fondamental. Tout ce qui a trait à Jérusalem, à la tradition, n'était pas fondamental. Ce qui explique toutes ces parties qui ont été expurgées.
Alors, on peut dire cela. Mais alors après, il faut expliquer pourquoi, par exemple, des paraboles qui soulignent que l'évangile, que le royaume va être enlevé aux juifs et va être donné aux païens, ne sont pas dans Marc. Parce que ça irait dans ce sens-là. Hein, que justement, les païens, maintenant, sont invités à entrer dans le royaume. Et alors, il y a un phénomène très étrange dans Marc. C'est que Marc, si Marc dépend de Matthieu, par exemple, il faut dire que Marc a supprimé beaucoup de choses de Matthieu. Mais en même temps, on se rend compte que dans les péricopes, ce qu'on appelle les péricopes, c'est les textes, si vous voulez, que dans les péricopes même, Marc est souvent plus long que Matthieu. Donc il y a deux tendances contraires. Il y a d'un côté, il coupe plein de choses, et dans ce qu'il garderait, eh bien, il rallonge la sauce. Ce qui est une démarche, vraiment une démarche contraire, et qui se vérifie très souvent. Alors si on dit, et cela pas pour des raisons théologiques, c'est pour des raisons de style, c'est très très bizarre. J'ai mon explication là-dessus, mais bon, on n'a pas le temps de le développer. Mais bon, vous voyez un peu le problème. La deuxième théorie, c'est la théorie la plus fréquente aujourd'hui, mais alors qui est en fait une théorie qui décrit un peu les choses, mais qui est beaucoup plus compliquée que ça lorsqu'on rentre dans le détail chez les théologiens. C'est ce qu'on appelle la théorie des deux sources. C'est celle que soutient la Tob, par exemple. C'est que vous avez d'abord Marc, et puis vous avez une source qu'on appelle la source Q. Pour les Allemands, ça veut dire quelque chose, c'est Quelle. Parce que Quelle, en allemand, ça veut dire source. La source Q. Matthieu aurait utilisé Marc et cet autre écrit, aujourd'hui perdu, qui me semble, on a bien des raisons de penser qu'il a existé. Pas le temps de le prouver. Et Matthieu aurait fait une fusion de ces deux sources. Luc aurait pris les mêmes sources, Marc et la source Q, et aurait fusionné les deux sources, mais d'une autre manière. À d'autres endroits. Il y a des raisons de penser qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas totalement faux là-dedans. Troisième théorie, la théorie des sources multiples. Alors, l'un des exemples, parce qu'en français, nous avons quelqu'un qui s'est spécialisé un peu dans le travail sur ce sujet, c'est Boismard. Alors, vous voyez ce que ça donne. Bon, là, on arrive à, disons, bon, chaque fois qu'il y a un problème, ben, on crée une nouvelle source. On peut en arriver là. Alors c'est sûr, on a autant de sources que de problèmes. Donc ça simplifie tout. J'aurais tendance à dire que si on accepte ce genre de théorie, on peut bien plus expliquer les choses par la tradition orale. La tradition orale expliquant les sources, disons, les petites différences entre les évangiles. Mais bon. Quatrième théorie, c'est celle qui aujourd'hui me convainc de loin le plus, de très loin. Parce que cette théorie a le grand avantage de rendre justice au témoignage des pères de l'Église. Deuxièmement, de tenir compte de toute la recherche qui a été faite depuis un siècle sur les évangiles. Par exemple, l'existence d'une source Q. De recherche qui me semble sérieuse et solide. Troisièmement, cette théorie maintient ce qui, pour moi, évangélique, est le plus important. L'apostolicité des évangiles, je vais y venir dans 2 minutes. Donc Philippe Roland est un père catholique que je connaissais bien. Et je dois vous dire que ce qui m'a téléphoné il n'y a pas longtemps, il m'a dit, passons d'abord aux bonnes nouvelles, après il m'a donné les mauvaises nouvelles, à propos de la nouvelle version de la Bible de Jérusalem, c'est que la Bible de Jérusalem adopte pratiquement son origine, disons, sa façon de comprendre les origines des évangiles, dans son introduction aux évangiles synoptiques. Il y a aussi beaucoup de mauvaises nouvelles sur la nouvelle traduction de la Bible de Jérusalem, où il y a eu des changements dans la traduction qui ne sont certainement pas très heureux. Mais bon, ceci dit, là il y a une reconnaissance aujourd'hui officielle de son approche de l'origine des évangiles qui me semble très intéressante. C'est quoi ? C'est qu'au début il y a eu un Matthieu hébreu. Alors je la résume. Je vous renvoie à son petit livre, je ne l'ai pas porté ici, il s'appelle Les premiers évangiles, la date des premiers évangiles. Il me semble, oui. Petit livre qui est très bien fait, très simple. 90 francs, quelque chose comme ça, la date des premiers évangiles. Édition, c'est quoi ? Pauline, quelque chose comme ça ? Mediaspol, je ne me souviens plus. Je l'ai chez moi à la maison, je l'apporterai demain. C'est très bien, vous le lisez, ça peut vraiment être utile. C'est qu'au début, donc, pour lui, il y a eu un Matthieu hébreu. Hébreu et paraméen, je ne rentre pas dans le détail. Ce Matthieu hébreu, en fait, correspond, en gros, à ce que nous avons dans Marc. Pas tout à fait. Mais c'est donc pas du tout le Matthieu que nous avons dans nos évangiles de Matthieu, dans notre évangile de Matthieu. C'est plutôt un Matthieu, c'est Matthieu, l'apôtre, qui a écrit cet évangile en hébreu très tôt, dans les années 40, 50, on pourrait dire. Très tôt, pour l'Église qui parlait l'hébreu. Mais cet évangile donc suit en gros le plan de Marc. Il est plus court, parce que Marc a prédéveloppé. Et cet évangile, Matthieu hébreu, a été traduit 2 fois en grec. 2 traductions grecques. Ce que Philippe Roland appelle l'évangile pétrinien, et à droite l'évangile paulinien. Pourquoi il appelle ça l'évangile pétrinien et paulinien ? C'est parce que ces 2 traductions ont servi à l'évangélisation de Pierre et de Paul, si vous voulez. Donc 2 traductions séparées. Et puis vous avez ce qu'il appelle l'évangile de Césarée. On n'est pas du tout tenu de dire que c'est l'évangile de Césarée. Ça, c'est... Après, il y a toute une réflexion théologique derrière. Hein. C'est ce qu'on appelle la source Q. Cette source indépendante que l'on retrouve dans Luc et dans Matthieu. L'évangile selon Matthieu, actuel, serait un travail que Matthieu lui-même aurait accompli sur la traduction en grec de son évangile dans Matthieu en hébreu primitif. Il aurait retravaillé tout le texte, le réorganisé, et aurait ajouté la source Q. Vous voyez, c'est donc Matthieu. L'évangile de Luc viendrait de la source Q et de l'évangile paulinien, l'autre traduction. Et l'évangile de Marc serait une fusion des 2 traductions grecques de l'évangile primitif de Matthieu. Je vous donne un exemple de ce genre de de phénomène qu'on trouve dans Matthieu. Quand je disais que Marc est plus long, pour les péricopes qui sont dans Marc. Marc est plus court globalement, mais il est plus long dans le détail. Par exemple, dans Marc, il est dit, à l'aube, lorsque le soleil se fut levé, Jésus partit. C'est redondant. Eh bien, vous découvrez que dans Matthieu, vous avez à l'aube, dans Luc, vous avez quand le soleil se fut levé. Comme si Marc, et ça on le retrouve de nombreuses fois, comme si Marc fusionnait deux traductions différentes d'un même original. À l'aube, quand le soleil se fut levé. Alors Matthieu, notre Matthieu a à l'aube, notre Luc a quand le soleil se fut levé, puisque eux s'appuient sur deux traductions différentes de l'original Matthieu. Et Marc qui fusionne, ben il y a les deux. Et on retrouve cela, je pourrais le montrer dans le détail, à de nombreuses reprises. Ce qui me fait dire, ce qui peut faire dire plutôt à Philippe Roland, que c'est bien Matthieu et Luc qui ont été écrits les premiers. Lui propose des dates de 63 à 64. Dans le texte là, vous l'avez en dessous, 63 à 64. Et que Marc a été écrit beaucoup plus tard. Lui dit en 66, pas beaucoup plus tard, quelques années plus tard, en 66. Pourquoi en 66? Parce que Papias dit que Marc a repris la prédication de Pierre à Rome. Et que c'est dans ces années-là que Pierre est mort à Rome. Donc on, selon certains pères de l'Église, c'est juste avant la mort de Pierre. Selon d'autres pères de l'Église, c'est après la mort de Pierre. D'où la date de 66. Ce qui donc nous permet d'expliquer tout. Le fait en particulier que Marc est plus court, puisque Marc, c'est la fusion des deux traductions du Matthieu originel. Mais en même temps, que Marc est plus tardif que notre Matthieu actuel et que notre Luc actuel. Il me semble que cette théorie est très intéressante et mérite en tout cas d'être étudiée dans le détail, mais ça demanderait quelques heures de cours. Alors je vous renvoie au bouquin. Oui. Alors on ne sait pas. L'évangile de Césarée, alors... Pourquoi est-ce qu'on parle de cette source Q? Est-ce que j'ai quelque chose ici? Attendez, dans votre plan. Moi, non, je ne l'ai pas là. Non. Qu'est-ce que l'on découvre lorsqu'on étudie les évangiles? On découvre qu'il y a des textes qui sont dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. D'accord? Dans les trois évangiles. Ce qu'on appelle la triple tradition. Et puis on découvre qu'il y a un ensemble de textes qui ne se trouvent que dans Matthieu et que dans Luc. C'est ce qu'on appelle la double tradition. C'est ce qu'on appelle la source Q. Lorsque l'on isole ces textes, lorsqu'on prend les textes de la triple tradition dans Matthieu et la double tradition dans... Pardon, la triple tradition, donc Matthieu, Marc, Luc, et la double tradition, Matthieu, Luc. On les isole. On constate quoi? Que l'ordre d'apparition des péricopes est identique. Pratiquement. En particulier dans la double tradition. Que l'ordre d'apparition des péricopes dans Matthieu et l'ordre d'apparition des péricopes dans Luc, c'est le même ordre. Et pourtant, dans les évangiles, ces péricopes ne se trouvent pas du tout au même endroit. Ils sont dispersés autrement, au milieu de la triple tradition. Ce qui suggère fortement que Matthieu avait sous les yeux la triple tradition, ce qu'on a dans Matthieu, Marc et Luc, la double tradition, ce qu'on a dans Matthieu et Luc, que Luc de même avait ses deux sources sous les yeux, et ils les ont fait, ils ont fait la fusion, mais autrement. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Oui. Il y a donc là bien un indice d'une source écrite, que l'on appelle aujourd'hui la source écrite. Et l'on sait que Jésus a dit beaucoup d'autres choses que ce qu'on a même dans les évangiles. Donc il n'est pas du tout impensable, et Luc le dit même, hein, plusieurs ayant entrepris d'écrire le témoignage, ce qui s'est passé parmi nous, avec moi aussi je t'écris, excellent Théophile, afin que tu sois sûr de la véracité des enseignements que tu as reçus. Donc Luc dit lui-même qu'à son époque déjà, il y avait plusieurs écrits qui circulaient dans l'Église, qui rapportent les paroles et les actes de Jésus. Bon, on va s'arrêter là, tout ça pour dire qu'il me semble... Oui.
Absolument.
Alors Philippe Roland souligne que c'est Matthieu et...
Pas l'école
mathéenne.
Donc la source Q serait d'origine apostolique.
Certainement, oui. C'est une source... C'est une source qui semble, alors, selon beaucoup, beaucoup de théologiens, bon, on n'a pas le temps, hein. Je pense que ce qui est très intéressant de constater, c'est que l'épître de Jacques, qui, à mes yeux, est la première épître du Nouveau Testament, contient de très nombreuses allusions à cette source Q, à ce que l'on trouve dans les évangiles sous le label source Q. Il y en a au moins une quinzaine. Et donc cette source Q date très certainement des toutes premières années de l'Église. C'est les premiers textes qui ont été produits par les apôtres dans l'Église. Oui, mais Pierre est parti vers Césarée. Il est parti par là-bas, dans Acte 11-12. Il est parti vers un autre lieu, on pense certainement Césarée. Une tradition. Là. Bon, ceci dit... Qu'est-ce qui me semble important de souligner? J'espère que ça vous donne envie de continuer à travailler la question. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous décrire un peu ce tableau? C'est pour deux choses. Premièrement, pour montrer que les questions ne sont pas aussi faciles que ce qu'on imagine parfois comme évangéliques. Hein. Bon, c'est que Matthieu, Marc, Luc ont pris la plume et ont commencé à écrire. Non, c'est pas comme ça que ça s'est peut-être passé. Que s'il y a tout un travail là qui s'est fait. Et qu'en tant qu'évangélique, nous devons donner des réponses solides, fondées, fruit d'une recherche sur les sources, sur les textes, qui soient pas faites à la légère, hein, en disant, bon, voilà, c'est Matthieu qui a écrit, point, c'est tout. Bon, d'accord, oui, mais il y a des phénomènes assez étranges dans ces textes, dont il faut rendre compte. Donc le théologien évangélique se doit... de travailler ces questions. On n'a pas le droit de donner des réponses rapides, trop rapides, et qui ne sont pas sérieuses. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi pour vous dire que, en tant que théologien, on peut être évangélique, on peut être théologien, et maintenir ce qui, pour moi, est fondamental, c'est que ce sont les apôtres, Matthieu, Jean, mais nous n'en parlerons pas de Jean, on ne parle pas de Jean dans l'ancien antique. Et que c'est Luc sous l'autorité de Paul et Marc sous l'autorité de Pierre qui ont écrit les évangiles. Et qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir constamment, comme le font la plupart des théologiens, des écoles mathéennes, des écoles martiennes pour Marc, des écoles lucaniennes, pour expliquer les différences qu'on a entre les évangiles. Non, je pense réellement qu'il est scientifique de soutenir que c'est Matthieu qui est à l'origine de Matthieu et qu'il y a là écriture d'un évangile sous l'autorité des apôtres, ce qui est un élément fondamental, me semble-t-il, d'une compréhension évangélique de l'écriture. L'écriture n'est pas, les évangiles ne sont pas le fruit d'une réflexion théologique de communauté qui, une génération plus tard, ont inventé, parce que c'est ce qu'on dit, des histoires sur Jésus et des paroles de Jésus, parce que les églises avaient besoin de ces paroles et besoin de ces histoires pour annoncer l'évangile. Je résume rapidement et de manière un peu caricaturale les positions de Bultmann, de Kummel, enfin de nombreux théologiens actuels qui parlent de l'école mathéenne. On dit beaucoup plus aujourd'hui, si vous avez regardé Corpus Christi, par exemple, vu sur la télé. Aujourd'hui, la tendance est de dire, dans les évangiles, nous n'avons pas tellement un témoignage sur Jésus, mais nous avons un témoignage sur la manière dont les communautés mathéennes, c'est-à-dire les communautés liées à cet évangile selon Matthieu, comprenaient Jésus. Cela me semble être une rupture avec l'histoire qui grave. Comme si on pouvait séparer le Jésus de l'histoire, c'est entrer dans un autre type de religion. C'est la religion du mythe. C'est-à-dire, les évangiles nous racontent l'histoire d'un homme un peu mythique qui aurait fait et aurait dit des choses qu'il n'a en fait pas vraiment dit et pas vraiment fait, mais que les communautés croient et proclament. C'est ce qu'on retrouve dans pratiquement tous les écrits, hein, très nombreux écrits théologiques actuels sur Matthieu, sur Marc ou sur Luc. Il ne me semble pas nécessaire en tant que théologien, je crois vraiment à la recherche sérieuse, hein, sur les textes, de devoir dire cela à la lumière de l'Écriture. Je ne le pense pas. Voilà. Cette introduction, qui est une introduction un peu longue, mais qui met, j'espère que cela pourra vous aider. Nous avons jusqu'à 10 heures. 10. Ah, oh, très bien. Excellent. Ça va? Alors, on peut continuer, donc. Recherche structurelle. Ça va si je me lève avec le micro, là, ça s'enregistre quand même? Parce que je ne suis pas du style à rester assis. Recherche structurelle. Alors, dans la recherche théologique, vous savez que l'on a élaboré de nombreuses approches des évangiles, ce qu'on appelle des approches critiques, mais le mot critique ne doit pas faire peur. Hein. Le mot critique, c'est simplement un mot qui, ça vient du mot juger, en juge évaluer, hein, en grec, krisis, krino. Et que nous devons, lorsque nous lisons l'Évangile, nous aussi, avoir un regard d'évaluation du texte, un regard critique, d'évaluation. À quoi avons-nous affaire lorsque nous lisons l'Évangile? Alors, vous savez, bien sûr, qu'aucun livre d'histoire, aucun, n'est un livre objectif. Ça n'existe pas, l'histoire objective. L'histoire objective qui consisterait à reproduire les faits tels qu'ils se sont passés, c'est impossible. Tout historien, tout témoin, j'étais témoin d'un accident il n'y a pas longtemps, l'assurance vient de m'envoyer un papier que je dois remplir et je dois dire ce que j'ai vu. Ah ben bon, moi j'ai vu certaines choses, c'est pas évident que d'autres. Bon, je vais interpréter les choses, hein. Je vais dire en gros ce que j'ai vu et puis bon. Voilà. C'est une interprétation de ce que j'ai vu. Tout historien va grouper les événements, va les mettre dans un certain ordre, va faire des remarques d'interprétation des événements, va suggérer une façon de les comprendre. C'est obligatoire. On ne peut pas faire de l'histoire qui reproduit l'histoire. Et les évangiles sont des témoignages sur l'histoire, sont des livres d'histoire sur Jésus. La grosse question, c'est de savoir... Oh, attendez. Je reviens tout de suite. J'ai un petit livre à la maison qui est très intéressant. C'est un livre qui reproduit, qui rassemble les différentes façons dont on a interprété la Révolution française. Alors, tous les bouquins d'histoire sur la Révolution française rapportent des faits. On a coupé des têtes, on a fait la Révolution, etc. etc., etc. Bien. Mais si vous lisez un livre marxiste, ou si vous lisez Pierre Chaunu, sur la Révolution française, vous n'aurez pas le même livre d'histoire. Parce que l'interprétation de la Révolution est différente. La grosse question est de savoir qui a raison. Alors, je n'ai pas porté le petit livre de Henri René Maroux, qui est un petit bijou, ça s'appelle « De la connaissance historique », où Henri René Maroux dit: si l'on devait faire de l'histoire en étant sûr que ce qu'on va écrire est vrai, ça correspond réellement à ce qui s'est passé. Par exemple, si on devait parler d'Henri IV, on devrait connaître toutes les conditions économiques, les conditions politiques, toute la géographie, toutes les maîtresses d'Henri IV. Savoir si tel jour il avait bien digéré ou pas. Savoir s'il avait bien dormi ou pas. Savoir s'il s'était fâché avec son jardinier ou pas, etc., etc., etc. Pour pouvoir donner la vraie interprétation de ce qui s'est passé. Et puis Henri Mémarot dit, un seul est capable de cela. C'est, dans un livre sur la connaissance historique, hein, c'est pas un chrétien, hein, c'est un bouquin de réflexion sur la philosophie de l'histoire. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu, Esprit sage, universel. Et puis il cite tout un passage du livre de la sagesse. Seul Dieu peut interpréter toute chose de la manière juste. Eh bien, je crois que les évangiles nous présentent des regards, quatre regards justes sur Jésus. Ils ne font pas de l'histoire objective une sorte d'immense poubelle, parce que c'est ça quand on parle d'histoire objective. On met des faits dans une poubelle, hein, c'est ça dont on parle, pas du tout. Ils font de l'histoire subjective, c'est-à-dire de l'histoire interprétée, de l'histoire organisée, de l'histoire structurée. Ils nous rapportent la vie de Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, dans une structure, selon un ordre, selon un plan, qui met en évidence, pas seulement ce qui s'est passé, mais qui met en évidence la manière dont on doit comprendre, d'une manière juste, ce qui s'est passé. Les évangiles, c'est de l'histoire vraie, et vraie avec un grand V. C'est l'histoire interprétée en toute vérité de ce que Jésus-Christ a fait et dit. Les évangiles, vous savez, la Bible, on comprend l'inspiration de l'écriture d'une façon parfois très bizarre. C'est comme s'il y avait des textes, et puis en plus, pof, il y a un cachet, l'esprit, qu'on met après dessus là. Bon, qui est comme surimposé, mais pas du tout. Quand je parle d'inspiration de l'écriture, et M. Boucher va certainement parler dans le cours que vous allez avoir, quand on dit que l'écriture est vraie, sûre, exempte d'erreur, je crois que cela veut dire que l'esprit a agi d'une façon telle dans la tête de Matthieu et dans ses sentiments que ce qu'il a compris de ce que Jésus-Christ a dit et fait a été présenté d'une manière qui correspond réellement à ce que Jésus-Christ a été et a fait. D'où l'importance, c'est ce qu'on appelle cette approche. Je récupère là ce que les théologiens libéraux appellent, ce qu'on appelle l'approche, la rédactionsgeschichte, la critique rédactionnelle. C'est une approche qui cherche à voir au travers de la manière dont l'évangile, les évangélistes ont rédigé les évangiles, le sens qu'il veut donner à ce qu'il rapporte. Si Matthieu a écrit les choses comme il les a écrites, c'est pour dire quelque chose. C'est parce qu'il a compris quelque chose et il veut le montrer au travers de sa manière de présenter l'évangile. Et c'est ce qui explique que Luc, que Marc et que Jean ne présentent pas l'évangile de la même manière. Parce qu'ils montrent autre chose qui est aussi vrai en organisant les données de manière différente. C'est comme si, par exemple, je devais écrire un livre sur, je ne sais pas moi, le général de Gaulle, et qu'au début de ce volume sur le général de Gaulle, je mets l'appel du 20 juin. 10 juin, pardon. 10 juin. L'appel du 10 juin. Comme si je mettais ça en exergue pour résumer la vie du général de Gaulle. Je pourrais faire autrement. Je pourrais mettre en exergue de la vie du général de Gaulle ce qu'il a dit à Alger lorsqu'il a dit « Je vous ai compris. L'Algérie restera française. » Et de dire de Gaulle, c'est un traître. toute sa vie, il a trahi ce qu'il a dit. Ses actes ont trahi ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit. On pourrait. Deux façons, dans la présentation du personnage de Gaulle, de présenter le général de Gaulle. Oui. En mettant en exergue simplement une parole qui résume sa vie. C'est exactement ce que fait l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, on va arriver à Matthieu, hein, ne craignez pas, hein, on va y arriver, et j'espère que on y entre. Qu'est-ce que fait Luc ? Luc chapitre 4, vous avez dans Luc chapitre 1, 2, vous avez l'évangile selon l'enfant, l'évangile de l'enfance. On rappelle l'enfance de Jésus. Et puis vous avez Luc 3, par généalogie de Jésus. Luc 4, qu'avons-nous dans Luc 4 ? Nous avons la prédication de Jésus à Nazareth. Jésus qui est à Nazareth, il avance, il prend le rouleau de Isaïe et il lit Isaïe 61, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une aide de libération, etc. etc. Bien. Puis il n'est pas cru, on ne croit pas en lui, puis il dit, mais de l'époque d'Élie, il y avait la veuve de Sarepta, et puis bon, c'est les païens en fait ont été plus ouverts à la parole de Dieu que vous juifs qui rejetez cette parole qui est accomplie en moi. Si vous prenez Matthieu, si vous prenez Marc, il est clair que cet événement n'a pas eu lieu au début du ministère de Jésus. D'ailleurs, même les gens, il est dit dans ce texte de Nazareth qu'il y a déjà eu des miracles, d'autres miracles avant. Le texte lui-même est évident et clair. Mais qu'est-ce que fait Luc ? Luc met en exergue du ministère de Jésus cet événement qui va être... qui est comme un événement et une parole, un peu comme le 18 juin ou la parole âgée. Voilà ce que va être le ministère de Jésus. Et tout l'évangile de Luc est construit sur ce modèle. Vous avez Luc chapitre 5 jusqu'au chapitre 9, verset 50, si je me souviens bien. Vous avez le ministère en Galilée. Et à partir de 9,51, il est dit, et Luc et Jésus décida, Jésus durcit sa face et décida d'aller à Jérusalem. Et à partir de Luc, vers chapitre 9, verset 51, jusqu'à Luc, chapitre 18, verset 10, 20, quelque chose comme ça. Vous avez un voyage vers Jérusalem. Et à partir de 18, 19, 20, jusqu'à la fin, vous avez à Jérusalem. Le serviteur de l'Éternel, de Ésaïe 61, lance son ministère en Galilée, monte à Jérusalem, un voyage vers la mort, arrive à Jérusalem et est rejeté par son peuple, lui le prophète, qui annonce la bonne nouvelle. Et il meurt. Et à la fin de Luc, et au début des Actes, vous avez quoi ? Vous avez, et l'évangile sera annoncé à partir de Jérusalem, dans le monde entier. Vous avez dans les Actes le mouvement inverse. Vous avez Jérusalem, puis vous avez la Samarie, la Judée, la Samarie, Corneille, les païens, jusqu'où ? Jusqu'à Rome. Vous avez deux mouvements, de la Galilée à Jérusalem, de Jérusalem jusqu'à Rome. C'est une œuvre. Luc et Actes vont ensemble. Il y a là une théologie. C'est ce que j'appelle dans mon grand 1, une perspective géographico-théologique. Luc interprète toute l'histoire de Jésus au travers de cette montée à Jérusalem et de ce départ. La loi sort de Sion, comme l'annonçait Ésaïe chapitre 2. La loi sort de Sion et atteint le monde entier. Et Luc interprète Jésus à la lumière de cela. Il nous faut donc nous poser la question de la structure de Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu a cherché à montrer en organisant son livre comme il l'a fait ? Quelles sont les portes d'entrée ? Quelles sont les clés qui nous permettent de voir, de discerner la pensée de Matthieu ? La pensée se découvre au travers de la structure. Vous savez qu'en France, on insiste beaucoup, hein, dans baccalauréat, introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion. Voilà comment un petit Français apprend à réfléchir, à exprimer sa pensée. Et si vous êtes, si vous écoutez une prédication où le développement n'est pas de ce style-là, très vite, en tant que Français, vous êtes perdu. Et quand vous êtes allé en Afrique, on ne pense pas comme ça, on ne réfléchit pas comme ça, on n'est pas éduqué comme ça. C'est beaucoup plus cyclique. On tourne. On dit deux, trois, quatre fois la même chose. On revient sur les points pour, à la fin, souligner le point qu'on voulait dire, en fait. J'ai vu des amis africains, quand j'étais en Afrique, venir me voir pendant 2 heures, me parler, et à la fin, je ne savais pas pourquoi ils étaient venus. Et c'est la fois d'après que j'ai compris pourquoi ils étaient venus. Parce qu'on n'aborde pas comme ça tout de suite le sujet. C'est indécent. Ça manque de pudeur. Donc, petit à petit, on y arrive. Ça manque du temps. Ouais. Ces deux cultures, la structure pour comprendre la chose. Vous savez, nous, en France, hein, ce que vous dites à la porte, c'est le moins important. En Afrique, ce que vous dites en partant, c'est le plus important. La structure, comprendre la structure, la manière dont les choses sont développées, sont amenées, vous permet de savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Voir ce que l'auteur veut dire. Eh bien, il nous faut maintenant, donc, aborder la structure de Matthieu. Recherche structurelle. C'est ce qu'on appelle faire la critique rédactionnelle. Voilà. Alors, juste avant la pause, nous allons prendre une perspective donc première. Est-ce que, quand la question... Est-ce que Matthieu, comme Luc, nous propose une perspective géographico-théologique? Est-ce que les choses sont organisées un peu comme dans Luc? Ministère en Galilée, puis ministère puis monté à Jérusalem, ce genre de choses. Alors, est-ce que quelqu'un a la colombe? Les yeux. Oui. Est-ce que j'ai oublié de la porter? Ah ben voilà.
Alors.
Matthieu. Matthieu chapitre 1, dans la colombe. Préparation au ministère de Jésus. Grand chapitre. Matthieu chapitre 5. Sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 8, miracle d'hiver. Matthieu chapitre 10, discours aux 12 apôtres. 11, opposition au ministère de Jésus. Parabole du royaume. Puis 14, fin du ministère en Galilée. Et puis après, vous avez 18, discours sur l'humilité et le pardon. On voit dans la colombe, préparation au ministère de Jésus, puis fin du ministère de Galilée, puis après Jésus à Jérusalem, on voit qu'il y a quelque chose encore dans cette structure proposée par la colombe, quelque chose de la structure géographico-théologique. Si vous prenez la Bible du Semeur, dans sa version actuelle, alors là c'est encore beaucoup plus frappant, me semble-t-il, si je me souviens bien. Naissance enfant de Jésus, chapitre 1. Chapitre 3, préparation du ministère de Jésus. Chapitre 4, ministère de Jésus en Galilée. Puis, il n'y a plus de grands chapitres, jusqu'au chapitre 16, Jésus et ses disciples. Puis 19, ministère de Jésus en Judée et à Jérusalem. Voilà les grands titres. Je vous annonce que ces grands titres seront changés dans la nouvelle édition qui est en train d'être... fête qui va paraître d'ici quelques semaines, quelques mois. On trouve donc dans certaines Bibles une importance assez grande donnée à la structure géographique. Et c'est vrai que dans Matthieu, on a des éléments géographiques. Dans Matthieu chapitre 4, versets 12 à 13, 58, on voit Jésus en Galilée. Puis on le voit aller vers Jérusalem, à partir du chapitre 16, à partir de la confession de foi de Pierre. Hein, on voit Jésus qui dit « Il faut que j'aille à Jérusalem pour être crucifié. » Et puis, dans le chapitre 21-25, il est clair qu'on voit Jésus à Jérusalem. Et après, il y a la mort et la résurrection. Il y a des éléments géographiques. Mais lorsqu'on lit Matthieu, on se pose quand même la question, on se demande, mais est-ce que vraiment, c'est ça qui est fondamental dans la manière dont Matthieu a structuré les choses? C'est pas du tout comme dans Luc. Alors nous, on a par exemple cette parole de Luc chapitre 9, verset 51 que j'ai cité. Jésus durcit sa face et monta à Jérusalem. Et alors, après, à plusieurs reprises dans Luc, Luc redit, et il était en chemin vers Jérusalem. À plusieurs reprises. Vous n'avez pas ça dans Matthieu. On ne sent pas du tout que dans Matthieu, tout l'accent tombe sur une montée vers Jérusalem. Bon, il y a des éléments qui correspondent en globalement à la vie de Jésus, que Jésus a passé au début du temps en Galilée, puis qu'il est monté, après qu'il est allé en Judée, puis à Jérusalem, ça c'est clair. Mais ce n'est pas quelque chose qui semble fondamental dans Matthieu. D'où d'autres structures qui ont été proposées par d'autres théologiens. Les théologiens qui ont cherché à mettre en évidence quelques moments clés dans le ministère de Jésus. C'est mon grand 2. Ça va, est-ce que je vais trop vite? C'est bon? Suivez? Quelques moments clés. Et ces deux moments, et alors les moments clés sont, je les mentionne hein, dans le plan là. J'espère que vous avez tous le plan sous les yeux. Hein. Le plan du cours. Donc 4, 17 et 16, 21. Donc là, je prends la tab, 4, 17. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Et j'ai notre texte, c'est 16. 21. Plan du cours. Dans mon plan du cours. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem. Et vous avez là deux expressions, 4, 17 et 16, 21, qui semblent se répondre. Comme si ces deux expressions fondaient, selon Matthieu, deux moments clés dans le ministère de Jésus. 4, 17 et 16, 21. Il y a un théologien du nom de Kingsbury, je le mentionne dans mon grand 2, approche structurelle. En note, Kingsbury a construit toute une structure de Matthieu, une thématique dans Matthieu, à partir du discernement de ces deux moments clés. En disant, c'est ça qui structure la pensée de Matthieu. Matthieu a compris Jésus à partir de ces deux moments clés. Alors, il est 10h30. Vous aurez le temps de réfléchir, je crois, jusqu'à demain. Il me semble qu'on a plus court aujourd'hui. Vous aurez le temps de réfléchir jusqu'à demain à l'importance de ces deux moments clés. Hein, c'est dans la structure thématique. Nous reprendrons donc cela demain, en essayant de voir si vraiment c'est cela qui est fondamental dans Matthieu. Voilà.